Alors, bien bonjour, chers auditeurs et chères auditrices à Erediwa, à l'émission ITC. Alors aujourd'hui, on va faire dans la viande froide, puisque nous allons parler des zombies.
À tous les enfants, bon appétit.
Voilà, alors, qu'est-ce qu'un zombiness ? Alors, un zombie n'est pas un vampire, ni un loup-garou. Néanmoins, ce sont des morts-vivants que les sorciers haïtiens emploient en qualité d'esclaves sur les plantations de l'île. Un zombie est un être humain officiellement mort dont on trouve dans les 24 heures qui suivent son ensevelissement la tombe ouverte et qu'on peut rencontrer 6 mois, 1 an ou 10 ans plus tard vivant. En général, le zombie travaille dans une plantation de canne à sucre qui appartient à un dignitaire vaudou. Ce sont des documents de Paris Match que j'ai. Attention, le poids des mots, le choc des photos. Donc, véritables robots, les zombies d'Haïti, aux gestes mécaniques et saccadés, ne répondent pas aux questions qu'on leur pose, travaillent très dur et gratuitement, et ne font qu'un seul repas par jour où le sel est exclu. Merci Nicole Nota, merci le MEDEF, je vois qu'on a nos futurs employés. On estime que la zombification s'effectue à partir d'une première drogue, une toxine mortelle, la tétrodotoxine, qu'on trouve dans la peau d'un poisson tropical, le poisson souffleur.
Il existe vraiment ce poisson ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, tu sais, c'est ce truc poison qu'on met toujours au héros pour faire croire qu'il est mort et que son cœur bat très très lentement. Eh ben oui, c'est celui-là. Donc voilà. Qui produit un état de mort apparente. Puis, une seconde drogue à base de Datura, que certains de nos auditeurs devraient connaître, qui les maintient en état de totale dépendance, comme dans l'enclouage ou la ligature des aiguillettes, pour les spécialistes des êtres paranormaux. Le zombie se dit encore « viens, viens ». On utilise aussi le terme « zombie jardin », puisqu'il gardait les jardins des fameux monsieur haïtiens.
Donc, c'était remplacé par les nains maintenant.
Voilà, c'est ça. Donc, pour fabriquer les zombies, les sorciers en appellent aux esprits dénommés Baka, terme d'origine congolaise, avec lesquels ils ont conclu un pacte comportant l'exécution de diverses personnes dans un but anthropophagique. Les Baka aident le sorcier Ougan à obtenir du Baron Samedi, le fameux Baron Samedi, qu'on a vu dans un James Bond, tu sais, quand ça se passe à Haïti, avec le monsieur là, avec le chapeau haute forme et avec la tête de squelette, à déterrer les morts pour les transformer en zombies. Le sorcier doit en pleine nuit chevaucher un cheval à rebours, s'approcher de la maison de celui ou de celle qu'il veut assujettir. À travers une fente de la porte, il suce l'âme de sa victime et la souffle ensuite dans une bouteille qu'il bouche aussitôt. L'individu envoûté tombe alors malade et meurt. Après l'enterrement, le Ougan se rend toujours nuitamment au cimetière et là commence par demander au Baron Samedi, le dieu de la mort, alléluia, la permission d'ouvrir la tombe. Contre la promesse de présent, il accorde la permission au Ougan. La fosse est alors ouverte et le cadavre soigneusement ligoté est amené chez le sorcier qui a eu soin de faire passer le défunt devant sa propre maison afin qu'il ne la reconnaisse plus jamais. Une fois chez lui, le magicien passe la bouteille contenant l'âme sous le nez du mort qui s'anime aussitôt. On lui fait alors absorber une drogue spéciale, on l'avait dit. Désormais, le pauvre corps sans âme sera l'esclave du sorcier auquel il obéira sans la moindre velléité de révolte. C'est bon ça. Souvent, le mort est réveillé dans le cimetière même. Dans ce cas-là, le zombie se rend en marchant chez le sorcier, qui le dirige à l'aide d'un fouet spécial, dont il existe un authentique exemplaire au musée ethnographique de Port-au-Prince. Et voilà mon chien, est-ce qu'on n'a pas des zombies ?
Port-au-Prince.
Oui, Port-au-Prince.
En Haïti.
Ben oui.
parle pas comme ça.
Bah, c'est un peu, hein.
Non.
Bon, d'accord.
Donc, suite à la parution du livre de Richard Matheson.
Oui.
Je suis une légende.
Oui.
Qui était un livre sur moi.
Oui, tout à fait. Et un biopic, on peut le dire.
Oui. J'ai plus
t'étais, pas, t'étais pas très frais, hein, je veux le dire.
Donc, de 1954, l'image du mort-vivant évolue et devient plus inquiétante. Sous la plume de l'auteur, les morts-vivants, appelés vampires dans le livre, sont de manière plus active les ennemis du genre humain qu'ils tentent de submerger. Donc, le mort-vivant, instinctivement enclin à dévorer l'humain normal, devient une figure très populaire du cinéma d'épouvante, notamment grâce au film de George A. Romero, Zombie, The Dawn of the Dead, et notamment le déclencheur d'une mode spectaculaire qui verra ces morts-vivants affamés de chairs humaines déferler sur le genre humain en général et sur le cinéma en particulier. Parfois inspiré, hein, bon, comme Lucio Fulci dans L'Enfer des zombies, souvent pas du tout même, hein, il faut le dire, pas du tout. Les imitateurs de Romero vont user de surenchères et faire sombrer le sous-genre du film des morts-vivants dans le nanar le plus complet. Maquillage dégoulinant d'asticots, figurant, surjouant leur zombitude, le mort-vivant Nana ressemble souvent à un convive mal remis d'une soirée arrosée qui se serait écrasé de la pizza pas fraîche sur la figure ou barbouillé de la peinture verte dans le cas des films les plus misérables. On parle de légumes, là, de navets carrément. Au milieu donc des années 80, le mort-vivant devient une figure franchement comique et va jusqu'à faire des doigts d'honneur à ses victimes, comme dans Le Retour des morts-vivants 2.
Yeah !
N'est pas Romero qui veut, hein. Et avec Virus Cannibal, hein, notamment la parabole politique d'une terre envahie par des zombies, bascule définitivement dans une pantalonnade pseudo-plan fait. Terre, à peine digne des guignols de l'info.
Ouais.
Donc un temps désuet au cinéma, le genre a connu une belle renaissance, notamment avec les adaptations de jeux vidéo que sont Resident Evil et House of the Dead. Mais bon, House of the Dead est un peu bidon, il faut le dire.
Je voulais parler, parce que quand même, il y a, comme tu disais, beaucoup, beaucoup de films, il y a quand même plus de 800 films. Hein,
dont 594 navets.
Ouais, moi, je pourrais... Moi, je dirais que t'es gentil, quand même. Donc, le premier qui est quand même connu, c'est le White Zombie de Victor Alpérir. Très joli nom. En 1932, qui se passe à Haïti, le berceau donc des zombies. Un couple est invité par une connaissance. Ce dernier souhaite briser le ménage pour épouser Madeleine. La demoiselle, hélas, reste fidèle. Vexé, notre homme, Charles Beaumont, va trouver un maître vaudou blanc qui s'appelle Legendre et qui est joué par Bela Lugosi.
Sérieux ?
Eh oui, pour qu'il fasse d'elle un zombie temporaire, un intermittent de la zombitude. Donc, il renvoie le veuf aux USA, ranime la belle et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais voilà, le gendre veut aussi sa part du gâteau. L'affaire sera sauvée par le retour du fiancé et d'un missionnaire. Alors, c'est là que commencent déjà les premières erreurs. Puisque nous avons le zombie, effectivement, qui est haïtien, qui est plutôt catatonique, qui évidemment suit les ordres, un petit peu un être sous GHB, suite au rite vaudou, et qui est assez traditionnel, et ce qui sera plus tard le mort-vivant, qui est méchant, et qui s'anime surtout en bande et pour détruire et manger des gens, et qui est un cadavre, revenu à la vie, et non pas un zombie, qui est un être vivant, dans une sorte de latence. Et c'est Romero, effectivement, qui sera le créateur des morts-vivants. Alors, malgré tout, il y a quand même quatre catégories de morts-vivants ou zombies, hein, c'est selon. Donc, la première catégorie, elle est magique, qui est issue de la sorcellerie, des anciennes malédictions, des phénomènes paranormaux ou el diabolo. La deuxième catégorie, c'est les aliens, avec des parasites ou des virus. La troisième, c'est chimique. Expérience scientifique, contamination, virus bien terrestre, cela. Hein. La quatrième catégorie, ce sera la romérienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. Les zombies sont là, point barre, mon petit bonhomme. Ils apparaissent, ils dévorent les gens et il n'y a aucune explication. Donc la première apparition, quand même, d'un zombie est en 1919 dans le cabinet du docteur Caligari. Non, pas Calgary, hein, rien à voir. Donc de l'allemand Robert Wein. Donc, évidemment, la première catégorie, à ses beaux jours jusqu'aux années 70, notamment avec le Sugar Hill de la Blaxploitation en 1974, où effectivement, là, on a une dame dont le mari a été tué par des gangsters, et donc elle fait appel à Mama Vaudou pour le faire revenir des zombies et qui vont tuer tous ces méchants gangsters. Mais là, effectivement, on se retrouve vraiment avec des zombies. L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven en 88, qui se passe à Haïti, et donc de pas mal de films italiens et espagnols. Il y a Cimetière, de les 1 et les 2 de Marie Lambert.
Marie Lambert,
oui.
Rien à voir avec...
rien à voir avec Gérard.
Gérard Lambert. Oui. Mais non, Jonathan Lambert.
Ah oui, Jonathan Lambert. Désolé. Donc, c'est issu du... Oui, aussi Christophe Lambert. Non, lui qui est un superbe zombie, il en est. Non, en fait, c'est issu du fameux Cemetery de Stephen King. Que le premier, le second, c'est vraiment une suite. Et évidemment, plus récemment, il y a le Rec de Paco Plaza et Romé Balaguero. Donc évidemment, qui eux sont lancés vraiment dans une histoire où il y a un virus créé par un chien. Puis évidemment, il y a plus de l'histoire de Dieu, puisque grâce...
Et le 3 qui est...
Oui, aussi dans le 3, parce qu'à un moment, le prêtre dit des cantiques et les zombies se calment. Donc la seconde et la troisième catégorie, après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, la peur nucléaire, eux vont vraiment être renforcés. Dans la deuxième catégorie, on a Zombie of the Stratosphere, en 1952, de Fred Bunner. Plan 9, From Outer Space, en 58, d'Edward D. Wood Jr. Et de la troisième catégorie, Creature with Atom Brain, en 1955. Et The Astroid Zombie, en 68, de Ted Michaels. La même année que La Nuit des Morts Vivants, mais à des années-lumière de celui-ci. Pour l'instant, point de virus, pas de chair bouffée, donc pas d'infection. Gentil zombie. Mais Romero changera toute la donne. L'américain Bill Eastman, le premier vrai mort-vivant du cinéma mondial, apparaît le 1er octobre 1968 dans un petit cimetière de Pennsylvanie. Et oui, c'est point un zombie, mais un homme, un mort revenu de la vie. Son seul truc, c'est la meute. Voilà qu'il va rentrer au panthéon des archétypes monstrueux. Du zombie haïtien, d'alien, de monstre atomique, à partir de 68, la révolution est en marche. Sous la terre, le mort-vivant est affamé. Ils seront. Le changement sera irréversible. La catégorie 3e, entre les débuts des années 90 jusqu'à maintenant, n'a cessé d'évoluer et de tout envahir. Return of the Living Dead, Resident Evil, 20 Days Later. Oui, j'aime beaucoup parler en anglais.
Oui,
mais aussi, oui, Brain Dead de Peter Jackson en 92, Black Sheep de Jonathan King. Des moutons zombies jusqu'à leur inconnu. Et au Japon, il y a Tokyo Zombie en 2005, de Jakichi Sato en 2006, et Stan Lee, The Attack of the Schoolgirl Zombie. J'adore ce titre. En 2001, de Yaoyuki Tomotamo. Et même du Pakistanais. Oui, messieurs, dames, le Pakistan s'intéresse aux zombies et aux morts-vivants, d'Omar Khan en 2007, Hell's Ground. Le troisième et le quatrième catégorie, donc, hein, règne en maître désormais. Encore que le deuxième recommence un petit peu avec The Undead des frères australiens Michael et Peter Spearing, et Doom, en 2005, d'Andrei Batovskyak et Slater, Horribilis, hein,
yes,
de James Gunn, avec des super petits vers qui t'attaquent et qui te transforment en monstre dévoreur. Donc il y a des zombies, mais des monstres, notamment cette célèbre femme qui grossit, qui grossit, qui grossit, et on ne voit même plus ses bras, même plus, il n'y a que la tête, et qui a un coup explose, et qu'il y a des vers qui rentrent dans les gens, qui les transforment. Tout cela parce que le 3 et le 4 marchent, parce qu'il y a une évolution de notre époque avec le nucléaire, l'apocalypse, les théories du complot des laboratoires pharmaceutiques ou militaire, le mort-vivant a de beaux jours devant lui. Voilà. Né la même année que les révoltes estudiantines, Romero fait œuvre politique dans ses films.
En 68.
Oui, c'était en 68, effectivement.
C'est un cimetière de Pennsylvanie.
Oui, oui, voilà.
Bobo Roy et son frère Johnny.
Johnny.
On fait donc une longue route pour venir se recueillir sur la tombe de leur père, enterré dans leur ville natale. Ce rite annuel irrite Johnny, qui se moque de Barbara et lui rappelle comment il lui faisait peur lorsqu'elle était enfant. Il cherche à nouveau à l'effrayer en lui affirmant que les morts vont venir la chercher. Barbara, énervée, s'isole. Il se fait agresser par une personne à la démarche mécanique et au visage ravagé. Mmh. Son frère la défend, mais meurt dans la lutte. Pas de chance. La tête fracassée contre une pierre tombale.
C'est ballot.
Barbara s'enfuit, se réfugie dans une maison isolée. Tiens donc, un routier afro-américain, Ben, la rejoint et bloque portes et fenêtres avec des planches de bois, alors que de nombreux morts revenus à la vie se dirigent vers la demeure. Barbara s'évanouit et restera en état de choc à son réveil.
Oui. Alors il y avait
c'est
pas
un budget de 114 000 dollars.
Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux sur celui-là. Point d'explosion de crâne et tout. Il voulait vraiment rester. Monsieur George Andrew Romero voulait vraiment rester plutôt documentaire. Mmh. Il se sera suivi par Zombie, donc le crépuscule des morts vivants en 78, donc 10 ans plus tard.
Ça fait partie de la saga. Des
voilà, c'est ça. Oui, oui, des volets, dirais-je même.
Dans
c'est
la
une
saga des zombies.
Oui, bon, si tu préfères.
C'est pas pareil.
Oh là là.
Ils ont donné un nom, il faut respecter
oui,
le nom, monsieur.
Moi, je préfère voler, parce que au moins, on peut les fermer. Donc, Zombie, le crépuscule des morts vivants, qui n'est pas une
Dawn
suite.
Dawn of the Dead.
Ouais, qui n'est pas une suite.
Non.
Donc avec les mêmes personnages.
C'est en
mais
sept c'est, ans plus.
Voilà, c'est ça. Mais le monde entier, les morts sont revenus. Alléluia. Donc là, par contre, une balle dans la tête, mordu, foutu. On voit les cervelles exposent, le sang gicle, les bouillots traînent. Et un groupe de quatre personnes tente de tout pour survivre. Et il s'enferme dans un centre commercial.
Quelle erreur.
Oui, oui. Mais n'empêche, d'un côté, ce qui est pas mal, c'est que ça donne ce côté anticapitaliste que voulait Romero, puisque d'un côté, les personnages ont tout ce qu'ils désirent, c'est-à-dire bouffer, et en même temps...
Mangé.
Non, et par contre, il y a aussi ce côté phénomène des zombies qui représente évidemment le consommateur de base, c'est-à-dire traînant dans les rayons, se collant aux vitres. Effectivement, et il y a eu un remake en 2004 de notre cher Jacques Skinder qui va bientôt sortir de Man of Steel, de Superman avec de Christopher Nolan. Donc voilà. Et là aussi, c'est évidemment le groupe et un centre commercial.
C'est en 2004. Ça.
Oui, celui, le remake. Mmh. Il y a le jour des morts vivants en 85. Donc, un petit groupe en hélicoptère cherche des survivants. Il n'y a rien.
Dead.
Ouais, ouais. Et ensuite, dans la base, qui est un ancien silo nucléaire, il y a une guerre froide entre les militaires et les scientifiques qui ne cessent de s'attaquer les uns les autres. Il y a un scientifique qui a, comment ça s'appelle, domestiqué un petit zombie, puisque les zombies commencent à revenir un petit peu à la vie. Et ces guerres entre vivants vont servir l'œuvre des zombies qui vont pouvoir se nourrir à bon escient.
Tu en parles des remakes, il y en a eu un aussi. De toute façon, il y en a eu un à chaque volet, je crois, pour reprendre ta...
Oui, c'est merci.
De Steve Miner qui est sorti en 2008.
Oui, donc évidemment, le territoire des morts, donc vers Pittsburgh, donc dans une ville fortifiée, hein, il existe trois groupes d'êtres vivants. Les riches, donc dans une zone de haute protection, dont l'image est représentée par Dennis Hopper, qui joue Kaufman. Les employés qui travaillent donc pour la sécurité et toute la logistique de la bouffe et tout. Et évidemment, le reste, donc, c'est ceux qui survivent dans les bidonvilles.
Ça fait penser à l'Afrique du Sud.
Oui, voilà, c'est ça, les townships, on peut le dire, hein, ou les favelas, c'est comme on veut. Chloé veut monter dans le cast, il vole un camion blindé et menace le chef Kaufman. Donc, à ce moment-là, Kaufman va demander à Rayleigh, un gentil, de piquer, évidemment, le char. Évidemment,
c'est
et
pas
là...
son prénom, c'est pas Jean-Paul.
Jean-Paul Rayleigh.
Non, à Kaufman.
Jean-Paul Kaufman, oui, c'est ça. Effectivement, évidemment. Et entre-temps, il y a ce côté-là où il y a un zombie qui a été vexé. Il commence à
se vexer.
Oui, oui, mais c'est à partir de là qu'on Romero leur donne de plus en plus de représentations humaines, parce que là, ils peuvent communiquer, décider d'attaquer en groupe, et parce que logiquement, ils sont la ville est protégée par un fleuve, donc évidemment, les zombies ne savent pas nager. Et là, ils ont l'idée de marcher dans le fond de l'eau. Et tout part à volo. Et dans ce film, il y a la fille de Dario Argento, qui est aussi un grand maître du cinéma d'horreur, Asia Argento, qui joue dedans. Et ensuite, il y a la chronique des morts vivants, 2008. Alors, tu vois, autant The Land of the Dead a été vraiment un produit hollywoodien, Romero voulait plus ça, voulait vraiment plutôt des petits budgets, donc je crois qu'il avait 200 000 dollars. C'est des étudiants en cinéma, donc notre cher Jason, hein, pas celui qui décapite oui. Les gens, hein, et qui veut devenir documentariste. Il va tourner un film d'épouvante dans la forêt. Il assiste à une invasion des morts vivants. Ce sera le documentaire de sa life. Il décide de tout filmer. Alors il explique à son groupe qu'il doit la vérité aux médias, puisqu'évidemment les médias nous mentent, c'est bien connu.
C'est un sujet de Romero, ça là.
Oui, mais il y a dans toute l'œuvre. Bah, c'est-à-dire
l'hypermédiatisation.
Bah, il y a ça aussi, et puis c'est de dire que les vivants, il y a toujours ce truc, c'est que. Il faut qu'ils tentent de survivre, mais ils font tout pour se niquer les uns les autres. Hein. C'est ça quand même. Et puis, le dernier qui est les vestiges des morts vivants en 2009. Évidemment, les morts vivants sont toujours sur la Terre. Et évidemment, tout se passe sur l'île de Plume, qui voit la guerre entre les Muldoon et les O'Flynn.
Oui, donc la nouvelle de Richard Matheson, là j'y reviens, parce que bon, c'est quand même ce qui a inspiré le premier volet. C'est donc je suis une légende, on va bien rappeler. Les premières sources d'inspiration de Romero avaient fait l'objet d'une adaptation cinématographique dans un film américano-italien co-réalisé par Sidney Sacco et Ubaldo Ragona avec Vincent Price. Une autre adaptation, Le Survivant, réalisée par Boris Sagal, hein, sortira en 71 avec Charlton Heston. Eh oui, les vampires de ces adaptations ont la lenteur des zombies de Romero, mais sont beaucoup plus vulnérables. Donc le succès rencontré par le film, le premier je parle moi, tourné avec un petit budget, en a fait un des plus rentables du cinéma indépendant.
Oui, parce que, alors, effectivement, tu parles de « Je suis une légende » de Francis Lawrence en 2007 avec notre cher Will, mais sans son fils. Et non, ça c'est pour le prochain. Donc évidemment, le virus du cancer, qui soit il les tue, soit il les transforme en vampires. Et en fait, c'est des vampires zombies, puisque ces vampires ne peuvent pas sortir au jour, puisque ça leur brûle la peau. Alors que quand même, les zombies, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'eux, nuit et jour, ils s'en foutent.
Oui.
Ils sont juste très très lents. C'est vrai que dans les premiers films de Romero, ils sont très saccadés. Au fur et à mesure de l'évolution de ses œuvres, ils vont devenir de plus en plus mobiles, voire de plus en plus au niveau de la réflexion. Et puis jusqu'au dernier film qui est sorti, dont on parlera plutôt vers la fin pour évidemment donner pointe, Warm Body. On en parlera un peu plus tard.
Donc juste pour conclure là, donc avec le premier film de Mr. Romero, donc le film est marqué par les convictions politiques de l'auteur. L'acteur principal est un jeune afro-américain, comme l'a dit Gwen. Donc chose rare pour l'époque, hein, puisque la ségrégation était encore de mise aux États-Unis un an auparavant. Donc ce choix de Romero est encore renforcé par le sort réservé au héros qui doit subir, en sus des assauts de zombies, les critiques donc de Harry Cooper. Donc seul survivant, il sera abattu par la police, et oui, tant pis pour lui. À la fin du film, la police l'ayant pris pour un zombie.
Bah oui, c'est vrai, c'est bien connu les zombies.
Donc en août, l'attaque des zombies a également été interprétée comme une métaphore de la guerre du Vietnam.
Après, évidemment, on va rentrer dans un listing de films avec des hauteurs et des basseurs vraiment considérables. Hein, puisque...
Des basseurs ?
Ah oui, des basseurs, oui. Claude Basseur, tu connais pas ?
Non.
Pour ta grande famille d'acteurs. Puisque évidemment, alors, moi j'ai fait plus par pays, parce que je trouvais ça assez rigolo, puisque effectivement, même les Français se sont mis aux zombies, oui. Et oui, messieurs, dames. Il y a L'Abîme des morts vivants de Jésus Franco, hein, en 81, grande date, hein, 81. Donc c'est un homme qui part à la recherche de son père, héros de la Seconde Guerre mondiale, assassiné après avoir révélé l'emplacement du trésor du maréchal Rommel. Donc sur place, des soldats allemands morts pour la défense de ce butin sont devenus des zombies affamés. Donc c'est avec Manuel Gélin. Hein. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de film, c'est que les comédiens, on les connaît pas tous. Hein, parce que,
ils en ont fait qu'un d'ailleurs.
Oui, il y a La Horde aussi de Yannick Dahan et de Benjamin Roche, 2010. Donc au nord de Paris, des flics décident de venger un des leurs en attaquant un HLM où se sont barricadés des gangsters. Et Vlatipa qui tombe sur des zombies, parce que les zombies ont décidé d'attaquer la ville. Ce jour-là, évidemment.
À la même heure.
Et oui. Bah oui, mais les zombies sont comme ça, mais ils sont précis. Ils attaquent, hein, voilà. Faut pas non plus, hein. Donc, évidemment, il va y avoir cette fameuse union sacrée entre les policiers et les banditos pour se défendre contre l'attaque des zombies. C'est le fameux ennemi commun qui permet de réunir les bons et les méchants, et même surtout les brutes. Il y avait aussi un petit film, ça pour spectateurs avertis, hein, Orgie en noir. Donc d'Ovidie, hein.
Triplex alors.
Oui. En 2000, par contre, c'est donc un film de boules. Ouais, c'est ça. On s'interpénètre comme ça, tranquillement, sous l'égide donc des zombies.
Si tu le permets, moi j'en ai un aussi en français là, qui est beaucoup plus intéressant, oui, qui relève le niveau, qui s'appelle La Meute de 2010,
ah, oui,
avec Yolande Moreau, Émilie Dequesne et Benjamin Biolay, Mathias Schnartz. Donc c'est de Franck Richard. Donc c'est Charlotte qui donc, c'est joué par Émilie Dequesne, pour pas hésiter. Fuit sa vie donc sur une route déserte, elle prend Max en stop. Max donc disparaît dans un routier quelques kilomètres plus loin. Intriguée, Charlotte revient sur les lieux. La nuit, il se fait surprendre par la SPAC, hein, c'est joué par Yolande Moreau, propriétaire donc du bar, femme étrange en charge d'une drôle de meute. Donc le combat de Charlotte commence. Donc ce film commence comme un survival, hein, classique, hein, mmh, où la propriétaire d'un resto capture donc des inconnus trouvés sur la route et les traite comme du bétail. Oh. Donc c'est du déjà vu. Hein, comme,
L'Auberge Rouge, ouais.
Ou non, ou surtout comme le film Motel.
Oui.
Mais force est de constater que Yolande Moreau est géniale dans ce rôle de tortionnaire. Et puis l'esthétique très américaine, hein, de cette France profonde, hein, oui, avec les voitures ricaines qu'on peut voir, le saloon, hein, d'ailleurs, que c'est là où se déroule la joyeuse meute, et aussi de la musique country. Et ainsi que le look des zombies, je trouve, en mineur, qui est très très bien fait. Donc la force du film est avant tout le mélange en genre, c'est-à-dire le glauque, on passe du glauque au drôle, etc. etc.
Oui, mais souvent, ouais.
Donc c'est une belle réussite cinématographique.
Il y avait aussi Les Raisins de la Mort en 78 de Jean Rollin, un petit peu du horror show version française. Donc une jeune femme découvre la présence d'un pesticide sur les vignes environnantes. Oh non, pas bien. Qui plus est, ce pesticide est toxique. Bah tiens. Et tous ceux qui boivent le vin extrait de ces grappes contaminées devient de dangereux zombies tueurs. Pas de chance, hein. Donc il y a Brigitte Lahaye qui joue dedans. Il y a une certaine Evelyne Thomas, donc je pense que c'est pas
c'est
celle qu'on
choix.
Connaît. Voilà. Donc évidemment, les zombies ne sortent plus des cimetières, mais sont victimes de produits dangereux. Il y a Villemolle, 81, de Vincent Paronneau en 2009, donc dans le Tarn, c'est toujours dans des endroits très très déserts. C'est marqué, dans le Tarn, personne ne vous entendra hurler. Donc, évidemment, dans la commune de Villemolle, 67 habitants, qui décide de créer un petit festival, le siège de Villemolle. Pour réanimer un petit peu l'activité, parce que là, c'est morne pleine.
C'est molle.
Voilà. Mais, hélas, un météorite tombe.
Un ou une ?
Une météorite. Ah. Tombe et commence à transformer la population en mort-vivant.
Un 2012 hein, qui est sorti, là, qui s'appelle Dead Shadows de David Cholewa. Donc c'est le passage de la comète de Halley, hein, au grand joie. Donc il transforme les habitants de Paris en monstres tentaculaires. Ça n'a rien à voir avec les zombies, mais ça s'est apparent.
Voilà, c'est ça. Et donc,
c'est,
donc
contre, c'est la navet.
Voilà, c'est Winnow. Donc, la Norvège qui sort le film Dead Snow de Tommy Virkola en 2009. Donc, des étudiants, parce que c'est toujours des étudiants, en
les
vacances
pauvres,
dans un chalet en montagne, toujours un endroit isolé.
Croise
malencontreusement un groupe de zombies de la Seconde Guerre mondiale victimes d'une malédiction. Donc, ce sont des nazis. Donc, évidemment, d'ailleurs, le film commence avec Anne Zwei Die. Donc, c'est évidemment, le film a référence à The Evil Dead, The Brain Dead et des jeux style Call of Duty.
Que des jeux d'amour.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ces fameux étudiants qui vont devoir se défendre contre des hordes nazis zombies. Il y a un film thaïlandais qui s'appelle Star Wars de Thuaiwat Wanta. Dans un futur proche, un virus dévaste le monde, le SARS numéro 4. Évidemment, tout le monde est touché sauf la Thaïlande, évidemment. Un zombie apparaît. À côté de ça, il y a une fille d'un riche entrepreneur qui est kidnappée. Les ravisseurs et la jeune fille seront confrontés à ce fameux zombie. L'entrepreneur fait appel à un vieux maître des arts martiaux, Houdo, expert en maniement de l'épée, et son jeune padawan, naïf mais doué. Évidemment, ce film fait référence au SRAS, hein, donc le virus de pneumonie infectieuse, qui évidemment avait commencé au Vietnam, pays voisin. Voilà.
Puisque tu parles en asiatique, là. Donc moi j'en ai trois.
Waouh !
Vampire Hunters.
Ah oui.
Au XVIIe siècle, donc dans une Chine infectée de zombies, oh qui, bah, une fois qu'ils ont mangé de la chair humaine, deviennent des vampires. Ah. Donc les guerriers nommés respectivement Vent, Tonnerre, Pluie et Éclair sont à la recherche d'un général vampire qui a fait disparaître leur maître d'armes. Donc ce film contient pas mal de scènes d'action, hein, arts martiaux fort bien chorégraphiés,
bah oui,
bien entendu. Et c'est dommage parce que le début est prenant, mais une présentation des personnages et l'explication de l'existence des zombies et des vampires, eh bien, mais bon, le film est devenu ennuyeux. Donc, pour rejoindre Quinn tout à l'heure, j'ai encore des films un peu cucu.
Ouais.
Donc, ça s'appelle Zombie Ass Toilet of the Dead. C'est un chef-d'œuvre du cinéma. Donc, de 2011, de Noboru Higuchi. Pour aider sa fille, donc gravement malade, un scientifique fou, hein, il faut préciser.
Ah oui, toujours.
Parce que vrai que le film, déjà, je le répète, est pour spectateurs avertis.
Ouais.
Crée donc une nouvelle race de vers solitaires.
Je vois le genre de vers.
Le problème est que ces vers se sont propagés dans la région, transformant les habitants du coin en zombies péteurs. Ça, c'était, il fallait préciser.
Ben oui.
Et donc, oui. Cinq
Repose
amis,
en paix.
Oui, cinq amis revenus camper dans les bois vont
décidément
essayer de survivre dans cet environnement hostile. Donc, vomi, paix et caca. Voilà le programme de ce film de zombies japonais complètement scato. Donc, il faut dire que ce truc filmique est d'une débilité sans nom.
Oui.
Et pour le dernier, donc j'en ai encore un
oui,
peu cucu,
merci.
Big Tits Zombie de 2010 de Takuro Nakao.
Décidément.
Ça, c'est beaucoup mieux. Des stripteaseuses donc, découvrent une pièce secrète. Elles tombent sur un Necronomicon.
Ah oui, le fameux, oui.
Le fameux livre des morts. Hein.
Oui, oui.
Et l'une des filles a la mauvaise idée de lire l'incantation qui réveille les morts.
Bah oui, bah tiens.
Et voilà, c'est l'invasion des zombies planétaires. Donc les nanas du film sont magnifiques, hein, il faut dire, ils ont soigné...
Oui, l'esthétique, hein, la plastique.
La plastique, il n'y a pas un seul temps mort. Comme le titre l'indique, le réalisateur zoome sur les seins des filles. Hein. Il nous montre aussi des combats de filles en petite tenue. Donc il y a aussi des sushis zombies, des ninjas zombies et même un zombie pervers qui arrache les soutifs des filles. Alors, on s'est quand même très très con comme film, mais bon, c'est très marrant.
Donc, il y avait Battlefield Baseball en 2007 de Yuda Yamaguchi. Donc, c'est l'équipe de baseball de Seido High qui veut gagner le légendaire tournoi de baseball junior. Mais elles vont devoir lutter contre la redoutable team Gendo High, composée de zombies arracheurs de têtes. Seido, donc, pour gagner, engage Yubei Yakuyu, un spécialiste de la batte. Une lutte à mort s'engage dans le stade. Alors, c'est une parodie, évidemment, issue d'un manga. Il y a aussi une version mexicaine avec El Santo. El Mascadaro del Plata, de son vrai nom Rudolf Guzman Huerta, 1917-1984, nom qui était un fameux catcheur mexicain. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de films sur lui. Et évidemment, il y a évidemment le fameux Santo contra el los zombies de Benito Alzanaki en 82. Il y a une trilogie. Hein. Donc, Santo contra el cerebro del mal et Santo contra el hombre infernales. C'est beau. En Argentine, il y a Plaga Zombie de Pablo Parés en 2001. Donc, évidemment, une expérience sur un virus extraterrestre. Enfin, vous voyez le topo, hein, oui. Qu'est-ce qui se passe, évidemment. En film irlandais, Boys Eat Girls de Stephen Bradley. Donc, c'est Nathan, 17 ans, qui est amoureux de Jessica. Mais le soir, il va, pour déclarer sa flamme, évidemment, il la surprend dans les bras d'un autre homme. Il est déçu, il se suicide. Sa mère le découvre mort, va voir dans l'église, puisqu'il paraît qu'il y a un fameux livre qui rend la vie aux morts. Évidemment, elle rend la vie à son fils, mais il a beaucoup, beaucoup d'appétit. Ah. Il y a un film hongkongais de Steve Cheng en 2000. Donc, Harry est un agent de la CIA. Il est infecté par un virus qui est censé le rendre invincible. Il retourne à Hong Kong pour se renseigner sur ce fameux virus. Il est accosté par des membres d'une triade et après un court combat, hein, évidemment, comme tout un chacun, dont il sort évidemment vainqueur puisqu'il est plus fort, la police arrête tout le monde et l'enferme dans une prison. Et c'est là... Oh que le virus commence à prendre possession de son corps et là...
Se transforme en Hulk.
Voilà, c'est ça. Et finalement, nous avions notre fameuse séance néo-zélandaise, Brain Dead de Peter Jackson en 92. Donc Lionel, qui est timide, voit sa mère tyrannique se faire mordre par un singe rat de Sumatra. Tout le monde connaît le singe rat, évidemment. D'après la légende, quiconque se fait mordre par cet animal devient un zombie. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Sa maman devient un zombie. Mais au lieu de fuir ou même de l'abattre, Et bien évidemment, Lionel va enfermer tous les zombies chez lui.
À un moment, c'est un esprit de famille.
Oui, c'est un esprit de famille. Il y a même la représentation d'une copulation morbide d'un prêtre et d'une infirmière qui donnera un bébé zombie. Et le gamin, il s'appelait le précieux.
Il y avait aussi Black Sheep. Hein.
Oui, Black Sheep aussi, oui.
Donc de 2008, Nouvelle-Zélande, Jonathan King qui a fait ce beau chef-d'œuvre. Mm-hmm. Donc deux militants écolos hein, qui s'introduisent dans une ferme qui procède à des expériences génétiques, c'est pas bien, sur les moutons. Ils dérobent donc un conteneur avec un mouton zombifié à l'intérieur. En le faisant tomber par erreur, hein, ils vont propager le fléau. Donc c'est bien. C'est des attaques donc animales hein, qu'utilisent les créatures les plus inoffensives hein, pour les transformer en terrifiantes menaces. Donc l'idée de rendre les moutons dangereux est très bonne, moi je trouve. Hein,
oui.
C'est assez marrant des fois. Les attaques de moutons zombies sont délirantes et bien jouées. Ça rappelle un peu les vaches zombies du film Dead Meat.
D'ailleurs, je pense qu'on peut proposer ça pour la fête de la transhumance, hein, qui sera bientôt.
Oui, et pour une fois que les écolos foutent la merde.
Toi, je te rappelais que dans 28 jours plus tard de Danny Boyle en 2002, c'est un groupuscule de défenseurs des animaux qui libère des singes hyper agressifs. Voilà, et qui leur saute dessus, évidemment. Et 28 jours plus tard, Jim se réveille dans son coma, dans un Londres, évidemment, déserté. Donc, il est poursuivi par des yeux rouges et sauvé par un couple qui lui explique la situation. Une maladie sévit, le pays est en quarantaine. Donc, il y a évidemment la suite, 28 semaines plus tard, de Juan Carlos Fresnadillo, en 2007. Donc, évidemment, la population britannique, victime par le virus de la fureur, est mise en quarantaine. 28 semaines plus tard, calme plat, les États-Unis débarquent. Logiquement, il n'y a plus de contaminés jusqu'à ce que... Hélas, un petit événement anodin va tout faire tourner. Et évidemment, il y aura la présence de Robert Carlyle et de Jeremy Renyi.
Et bien sûr, on peut trouver aussi ces films d'une version drôle.
Oui, on a Shaun of the Dead. Évidemment, avec nos chers collègues Simon Pegg et Nick Frost. Puisqu'évidemment, Shaun, lui, est un brave monsieur qui vit lamentablement, hein, faut bien le dire. Et qui, avec Ed, vit tout le temps au pub. Sa fiancée en a marre, elle veut qu'il bouge, qu'il fasse quelque chose. Et au bout d'un moment, comme il fait rien, elle le quitte. Lui, il se met à boire. Et là, il rentre dans des zombies. Puisque évidemment, les zombies ont la bonne idée de débarquer à Londres une fois de plus. Décidément. Évidemment, il y a toute une histoire où ils vont se retrouver enfermés dans leur fameuse pub. Mmh. Et que Shaun a décidé de reprendre sa vie en main. Alors évidemment, je ne vous raconte pas la fin qui est assez drôle. Mais c'est vrai que c'est drôle
tout le long.
C'est-à-dire que ça fait partie de la fameuse trilogie de Monsieur Wright, Blood and Ice Cream, hein, puisqu'il va y en avoir un qui va sortir cette année, The World's End, si j'ai bonne mémoire.
Que dans le même sujet, il y en a un qui s'appelle Zombie Bee aussi.
Zombie Bee, oui.
Qui se passe à Amsterdam, puisque c'est un satellite russe qui vient s'écraser dans la ville, et justement après les zombies se propagent, et c'est assez drôle aussi. Puis moi j'en ai plein d'autres, j'ai donc Gangster, Guns and Zombies de 2012 de Matt Mitchell. Le monde est sous tension, ce qui était le début d'une épidémie se transforme en apocalypse zombifique. Pour certains c'est la fin du monde, pour d'autres l'opportunité de finir un casse en toute tranquillité, enfin presque. Il y a aussi encore nos amis britanniques, Cockneys versus Zombies de 2012.
Ah oui, tout à fait, oui.
De Mathias Keun. Donc, c'est deux frères braqueurs de banque, hein, parce qu'ils braquent une banque, c'est pour justement sauver la maison de retraite.
Oui.
Où sont enfermés leurs grands-pères, me semble-t-il. Oui. Donc, voient leur plan contrarié quand les ouvriers travaillant sur un chantier ouvrent une voûte close depuis 350 ans, libérant une armée de zombies sur Londres. Ça, c'est aussi très, très drôle. Et il y a aussi Zombie of Mass Destruction de Kevin Amedani. Je vais y arriver. En 2011. Donc, la vie est belle. C'est beau. Dans cette ville calme qui est Port Gamber. Trois personnages donc reviennent dans cette ville pour entamer des grands changements. Seulement, il y a des zombies.
Eh oui. Moi, j'avais House of the Dead de Uwe Boll en 2003. Donc, évidemment, venu sur l'île pour une rêve partie, des groupes de jeunes découvrent rapidement qu'elle est peuplée de zombies.
Ah, alors,
ce qui est, c'est pas le sujet qui est drôle, c'est surtout la manière de filmer, parce qu'il faut savoir que Ball est quand même le réalisateur le plus détesté au monde, que beaucoup le comparent comme étant le nouveau Ed Wood. Hein. Le monsieur est connu pour prendre des franchises de jeux vidéo comme Blood Rain ou Alone in the Dark, et en fait il prend le truc, mais il fait des films totalement
pourris
et rien à voir avec le en fait, avec les jeux vidéo. Donc un petit film drôle aussi, c'est Les Noces Funèbres de notre cher ami Tim Burton, puisqu'au 19e siècle, Victor Von Dort, dont la voix est Johnny Depp, et Victoria Verglot, Emily Watson, vont se marier. Par mégarde, Victor se retrouve marié avec le cadavre d'Emily, Helena Bonham Carter, of course, et une mystérieuse mariée qui l'entraîne dans le royaume des morts. Alors évidemment, même si le monde des morts semble plus joyeux, Victor ne peut oublier Victoria. Il faut savoir que le pasteur est à la voix de Christopher Lee. Moi, j'ai les grands classiques, évidemment, que ce soit évidemment Rec, donc de Paco Blaya, et de Rome Balagüero, évidemment, donc le premier.
Cinéma espagnol.
Voilà, c'est ça. Donc, pour une émission, pendant que vous dormez, la journaliste Angela et son caméraman Pablo racontent la vie nocturne de certains boulots, et cette fois-ci, ce sont des pompiers. Donc, évidemment, au début, rien ne se passe, puis en un coup, il y a un coup de fil, comme quoi dans un immeuble à Barcelone, des gens ont entendu des cris, les pompiers débarquent, et c'est là où commence l'horreur. Là, il y a toute une histoire avec aussi une Tristana qui posséderait un démon qui transforme les gens, évidemment, en zombies, puisqu'évidemment, il y a les suites, le Rec 2, le Rec 3, le Genesis, hein, qui se passe dans un lieu de mariage, et logiquement, cette année, il devrait y avoir le Rec Apocalypse, puis évidemment, sans doute le plus connu, même si Hugo n'est pas trop d'accord, c'est évidemment The Resident Evil de Paul W. Anderson en 2002. Là, on se retrouve dans le cas de l'Umbrella Corporation qui a créé un virus T qui transforme les gens en zombies. Et évidemment, tout le rôle évidemment d'Alice, c'est de retrouver et sa mémoire et de lutter évidemment contre les méchants d'Umbrella Corporation. Donc évidemment, en 2004, il y avait le Apocalypse. En 2007, il y avait le Extinction, évidemment, puisque là, c'est carrément sur la planète entière. Hein, c'est plus dans la ville de Rangoon City. En 2010, il y avait le Afterlife. Et 2012, c'est le Retribution, qui a été repris par Anderson. Hein, puisqu'il faut savoir que quand même, il y en avait deux. Le deuxième et le troisième n'étaient pas de Paul Anderson.
Le premier Resident Evil, ça devait être Romero qui devait le faire, mais il y a eu des bisbis avec la production.
Il y avait aussi les Evil Dead de notre cher Sam Raimi en 1981, alors qu'il n'avait que 20 ans. Donc évidemment, c'est un groupe d'amis qui partent en vacances, oh, décidément, dans une maison perdue dans la forêt. Tiens donc, que de l'innovation. Ils trouvent dans la cave le livre des morts, le Necronomicon, de l'arabe fou Abdul El Razed, de notre cher H.P. Lovecraft. Donc évidemment, relié en peau humaine et écrit avec du sang. Donc, il est évidemment capable de réveiller les morts. Il y aura un deuxième en 87. Donc, dans la cabane, Ash, donc Bruce Campbell, hein, découvre un magnétophone avec un message enregistré par un archéologue renommé. Évidemment, il écoute le message, ce qui réanimera les esprits maléfiques. Il y a le troisième, Evil Dead, l'armée des ténèbres en 92. Donc, Ash se retrouve prisonnier du temps en l'an 1300, donc suite à un trou noir ou un truc d'aspirateur, hein. Évidemment. Et donc, il se fera greffer une tronçonneuse sur une main et puis un fusil dans l'autre.
Fini avec le passé. Moi, je vous parlais des vraies sorties, enfin, là, de 2013, puisqu'il y a un Evil Dead aussi qui sort en 2013 ou qui est sorti déjà. Donc, mais aussi le grand blockbuster World War Z.
Avec Brad Pitt.
Oui, de Mark Forster, donc qui sort le 3 juillet. Donc, l'apocalypse grande échelle avec Brad Pitt. Un homme parcourt le monde donc pour trouver une solution à la menace zombie qui menace l'humanité. Beaucoup de menaces là.
Oui.
Donc, c'est aussi une adaptation éponyme du roman de Max Brooks. Oui. Donc, il y a aussi Requiem, hein, de Valérie Milef, je pense que c'est un film russe. 5 années après une contamination zombiesque qui a décimé 85% de l'humanité, nous allons suivre les commandos de la Air Division qui sont chargés d'éliminer les zombies restants. On retrouve dedans Scott Adkins. Il y a aussi Staled, ça je pense c'est un film drôle, c'est un mec qui s'enferme dans les toilettes pour femmes car une horde de zombies cherche à le bouffer. Il y a aussi Zone 261, c'est maintenant au tour de la Suède, hein, un film suédois, de nous montrer une invasion de zombies à la grande échelle. Il y a aussi un film avec notre ami Dolph Lundgren qui s'appelle Battle of the Damned. Donc c'est des milliers de zombies, l'apocalypse, enfin tout ça quoi. Et voilà que des robots tueurs débarquent. Donc sont-ils là pour aider ou pour exterminer ce qui reste de l'humanité? Il y a aussi un film, deux films indiens, Go Goa Gone. Donc c'est une bande de potes qui pensaient passer du bon temps mais se retrouvent confrontés à une bande de zombies. Il y a aussi le film Bollywood Zombie.
Ah oui, c'est avec des danses, ils vont faire des thrillers.
Oui, aussi, oui, c'est ça.
I'm bad.
Tout à fait, monsieur. Il y a aussi un film australien qui s'appelle Wormwood. Donc, c'est dans un futur post-apocalyptique avec des voitures modifiées. Hein. Vous pensez tout de suite à Mad Max. Ah, oui, et non, forcément. Ça se passe avec des zombies, là. Donc, ça doit être un peu le même style.
Ça court moins vite, quoi, c'est tout.
Oui, il y a aussi Dead Before Dawn, une malédiction qui pousse les gens à se suicider pour se transformer en zombies démons. Donc, c'est un
phénomène poussé, quoi.
Oui, un petit groupe de collégiens face à une armée de morts. Je pense que ça, c'est un remake d'un film asiatique que j'avais vu déjà.
Ouais.
Il y a aussi donc un blockbuster tout pourri qui s'appelle Rise of the Zombie de Nick Lyon. Donc, c'est fait par la société Asylum, ça dit quelque chose, ça
hein, oui,
qui a fait, qu'on n'a pas parlé, mais Abraham Lincoln contre les zombies.
Voilà, c'est ça.
Donc, qui font donc, leur beurre depuis des années en produisant à la chaîne des rip-off, hein, comme ça qu'on appelle les nanars aux States, ou des suites de grosses productions. Donc, ils avaient fait Titanic 2, comme j'ai dit tout à l'heure, Marianne.
Titanic 2, quoi, il est remonté à sa face.
Oui. c'est souvent eux qui font des grosses conneries.
Okay,
donc on peut y voir quelques similitudes avec The Rock.
Ah oui.
Parce que le lieu de l'action se passe uniquement sur Alcatraz.
Mm-hmm.
Ou l'armée des morts aussi de Zack Snyder pour les zombies qui courent. Donc le scénario a été conçu en 3 heures, le décor est vide, le casting de second couteau qu'on trouve dedans c'est Marielle Hemingway. Je sais pas si elle dit quelque chose, elle a fait des séries.
Oui, non, mais c'est d'ailleurs, je crois, la petite fille de Ernest.
D'accord. Et Ethan Suplee aussi, qui est super connu. Et aussi en guest star échappé d'un film de Rodriguez, notre ami Danny Trejo.
Ah oui, Machete !
Oui, c'est ça. Il y a donc une dizaine de zombies qui reviennent de scène en scène. Donc ça doit être mortellement nul. Zombie, j'en ai plus que deux. Zombie Hunter, donc deux, Kevin King, avec James Gordon, Martin Copping, et là aussi encore notre ami Danny Trejo.
Machete.
Donc ces nouvelles drogues provoquent une apocalypse zombie planétaire dans les ruines de l'ancien monde. Un chasseur de zombies donc, qui est joué par Martin Copping, un prêtre qui est joué par Danny Trejo et des stripteaseuses hein, bien sûr,
bah
il
oui.
fallait un peu des femmes à poil.
Ah oui, oui, mais toujours. Hein.
Et d'autres survivants essayent de trouver un refuge à l'abri des hordes de zombies. Donc on peut dire que c'est un scénario qui doit tenir sur un post-it. Et il y a donc The Bay là, qui sort le 19 juin 2013. Donc c'est dans la baie du Maryland, une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s'en approchent.
Et moi, puisqu'on arrive un petit peu à la finale de notre émission, puisqu'on a eu les films de mort-vivant, les tragiques, les nanars, les drôles, et pourquoi pas The Love Story. Warm Body de Jonathan Levin, issu du roman éponyme d'Isaac Marion, donc on peut le retrouver aux éditions Bragelion sous le titre Vivant. Donc dans un monde dévasté par les hordes de mort-vivants, un zombie, R, est un peu particulier. Il semble avoir des pensées propres et en dévorant le cerveau d'un jeune homme, il se met en devoir de protéger la petite amie de ce dernier, Julie. D'abord contre ses propres camarades, mais surtout contre les squelettes, les morts-vivants qui ont abandonné définitivement leur humanité. Il va commencer à revivre, à devenir de plus en plus chaud, à avoir son cœur qui batte, et ça va carrément contaminer les autres zombies qui vont venir. Et d'ailleurs, puisque là, évidemment, il va ramener la jeune fille chez son père, qui n'est autre que John Malkovich, hein, en despote des vivants. Et donc, mais là, ça va faire une confrontation entre les morts-vivants et les vivants, entre en arbitre ces fameux squelettes qui veulent, eux, détruire tout. Et donc, c'est un peu une façon de Roméo et Juliette. Hein. Et donc, moi, je trouve qu'il était très bien fait. Moi, j'ai bien aimé. Alors, évidemment,
ah ouais c'est, non, c'est cucugnant.
C'est
le nouveau Twilight version
mais
zombie.
Mais bien sûr, c'est mignonnet.
Qui respecte même pas les zombies, puisqu'on est loin du concept zombie quand même.
Oui.
Moi, j'ai jamais vu un zombie qui conduisait, mais bon, c'est pas grave.
Oui, non. Alors, par contre, là, c'est justement parce qu'on en arrive à ça, où, comme je disais, que les zombies ne cessaient d'évoluer. Donc, effectivement, puisque au début, ils avaient vraiment des truc saccadé, on a l'impression un peu de Sydney qui fait son breakdance, mais effectivement, et de pire en pire, ils deviennent réactifs, puisque même dans the Land of the Dead, ils commencent à avoir des réactions et à réfléchir et même à communiquer. Et dans ce film, c'est ça qui est, je trouve, très marrant, puisque évidemment, on a la voix off du personnage R qui commence à parler, qui dit que voilà, il discute avec des gens, alors que ça fait. Donc moi, je trouvais ça, ce côté un peu marrant. Faut pas le prendre au premier degré, mais au troisième, quatrième degré.
Les aficionados, puisque, voilà, les zombies vont être déçus.
Ah non, mais ça, bien sûr, forcément. Oui, mais bon, là, ceux qui adorent les nanas où ça pisse du sang, excusez-moi, moi, c'est pas vraiment mon trip. Donc, on va s'approcher machinalement et d'un air déhanché du pestel.
Tu fais vraiment mal, le zombie.
tant mieux, je veux dire. Donc, cette fois-ci,
s'il fallait t'abattre, j'hésiterais pas.
Ouais, bah ça, je m'en doute. Non, de toute façon, moi, c'est pas la peine de me tirer dans la tête, y a rien. Donc voilà.
Surtout que c'est sale.
Donc, il y a quand même 4 films.
Sinon rien.
Voilà, c'est ça. Donc, Epic, la bataille du Royaume Secret, qui est
un animation
fait par Chris Wedge. Évidemment, Chris Wedge, c'est évidemment l'âge de glace.
J'ai pas dit évidemment, je crois que c'était France Gall.
L'âge de glace, évidemment, Rio.
Du 14 juillet.
Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, c'est l'histoire d'une jeune fille dont le père est un peu foufou, qui croit qu'il y a des petits êtres dans son jardin.
Ah, tu parles d'Epic, là.
Oui, d'Epic, ah, ouais, oui. Et évidemment, et là, elle va, maintenant, grâce à une malédiction, enfin, une bénédiction ou une malédiction, c'est selon, se retrouver toute petite et voir qu'effectivement, il y a un champ de bataille dans son jardin entre les forces du bien qui sont pour l'écologie, et évidemment, les forces du mal qui sont pour la pollution est, et que ce combat dans un petit jardin, merci Nicolas, va évidemment dépendre la sort de l'humanité et de la planète.
La sort, je suis pas trop sûr.
Le sort de la planète. Donc voilà, évidemment, c'est très drôle. Évidemment, il y a la voix de Mélanie Laurent, de Jérémy Régnier, ben là, donc notre fameux Clo-Clo, évidemment, de Garou, qui aussi fait pour d'ailleurs la voix québécoise, on s'en doute.
C'est entre Avatar, Mille une patte, oui, et Chérie, j'ai rétréci les gosses, voire Arthur et les mini-mois.
Oui, c'est moi, j'y ai pensé ça.
Oui, il faut le dire si tu penses. On est saisi donc par la beauté visuelle de cette fable initiatique, enchanteresse qui conjugue aventure et humour avec
les limaces. Et les
merveilleuse, une agréable, donc récré écolo.
Oui, non, mais je pense que...
Non, c'est bon, on a tout.
Voilà,
donc,
il est
la
super.
Fille du 14 juillet.
La fille du 14 juillet.
D'Antonin Paré.
Oui, qui était à Cannes. Hein.
Oui, il était à la quinzaine, réalisateur,
oui, voilà,
Cannes
Demestos.
Donc, tu n'as pas dit qui c'est qu'il y a dedans?
Non.
Tu dois le dire.
Oh là là, bon, si tu veux. Donc, Vilma Ponce, Marie-Lorna Vasconcin et Grégoire Tanakian.
Et
que des gens connus, quoi.
Oui, et celui qui fait les cuisines aussi, Thomas Schmitt.
Parce que c'est moi et Schmitt. Donc évidemment, donc un homme nommé Victor qui rencontre une femme nommée Truquette au Louvre où il est gardien. Évidemment, pour la séduire, il l'amène à la mer avec son pote Paton.
Pas tort, hein.
Pas tort. Ah oui, bah oui, forcément, puisqu'il a toujours raison.
Il s'appelle Hector.
Oui, Hector et pas tort. Ok, super. Et d'accord, donc, surtout si celle-ci amène sa copine Charlotte. Il voyage sur les petites routes de France parce que la France est à sec, c'est la crise. Le gouvernement décide alors de remettre le pays en marche. Fille des vacances, la rentrée est avancée d'un mois. Donc c'est évidemment la lutte entre les juilletistes et les haussiens jaloux. Le groupe comme la France disloque, mais cela ne fait pas peur au trio de rouler à contresens, si ce n'est pour retrouver la fille du 14.
Donc c'est un road movie hilarant dans une France en crise, comme l'a dit Monsieur G. Donc célèbre devise, se foutre absolument de tout. Dans ce film, donc ce côté absurde et comique d'une manière joyeuse. Moi j'ai un peu peur de la béinilisation, c'est-à-dire la mécanique comique qui tourne un peu à vide.
Ouais. Bah ça a l'air d'être un peu foufou, échevelé, dirais-je même, hein, mais...
Échevelu.
Échevelu, oui, tout à fait. Bah c'était un peu ce côté un peu de mai 68. C'est un petit film à découvrir. Voilà. Après, on n'aime pas ça, forcément. Le destin du film nous le dira.
Donc on se marre, c'est le plus important. Concours de danse de Bess Karkman.
Oui, 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 oui. Concours de danse, oui, qui est un documentaire. Hein,
il faut le dire.
Oui, il faut le dire. Évidemment, tous ces petits jeunes gens, hein,
j'ai entre 10 et 17 ans. Voilà, c'est pas des jeunes gens. Il faut dire l'âge.
Oui, entre 11 et 17 ans. Évidemment, qui veulent tous participer au concours de la prestigieuse Young American Grand Prix.
Ils sont issus de tous horizons et pour la plupart de l'immigration.
Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, ce concours de danse.
Michaela, Rebecca, tire leur nom.
Oui, vas-y, vas-y.
Je les connais tous par cœur, moi. C'est
oui,
mes amis.
Ça m'étonne pas, t'aimes les enfants, toi.
Michaela, Rebecca, mais c'est aussi des ados. C'est plus enfants,
oui,
à cet âge-là.
Non, mais,
mais ils ont changé de tranche d'âge. Je dirais plus leur nom.
D'accord, ok, évidemment, et qui n'ont que 5 minutes pour changer leur vie. Voilà, toute cette souffrance, tous ces sacrifices qu'on a fait pour ces 5 minutes qui feront de vous une étoile.
Oui, c'est pour changer leur vie. Mais bon, on peut dire que ça se passe quand même à New York.
Oui.
Il faut le dire.
Oui.
Que les demi-finales étaient dans les grandes villes. C'est planétaire. Hein.
Oui. C'est
pas uniquement américain.
Oui, parce que je crois qu'il y a 5000 participants et après, il n'y a plus que 300. Et...
Plus qu'un.
Bon, je ne pense pas qu'ils en prennent que un. Je pense qu'ils en prennent plusieurs, mais bon.
Non, ils en prennent qu'un. C'est moi. La mise en scène, donc, intimiste, met au jour les efforts, les sacrifices et les satisfactions d'un sport éprouvant. C'est un documentaire passionnant sur le monde de la danse. Oh. Mais j'ai peur que quand même, ça en tourne au reportage plus qu'à une œuvre de cinéma. Donc, Anne Elprin, le souffle de la danse, mon
petit
Gwen.
Oui, hein.
De cette Rudy Scherber.
Voilà, c'est ça, cette fameuse danseuse qui est née en 1920 à Witeka, en Illinois, et qui en 1935 étudie les techniques de Ruth Saint-Denis et Isadora Duncan, bon, sauf en conduite et écharpe, évidemment, et qui crée en 1957 le fameux concept de task, donc ces fameuses scènes ordinaires dansées, comme se nourrir, se laver, s'habiller ou inversement, et qui, atteinte d'un cancer, travaille avec des gens atteints du sida afin de les aider dans leur rapport au corps.
C'est superbe. Donc c'est un film sur la carrière exceptionnelle d'Anna Elprin, pionnière américaine, comme l'a dit Monsieur Gwen, de la danse contemporaine, une femme qui a redéfini l'art moderne avec la conviction que la danse peut nous transformer, nous guérir à tous les âges de la vie. Donc c'est le portrait d'une icône comme un aller-retour permanent entre le mouvement et le souffle, entre l'art et la vie, avec pour seul territoire la danse et unique injonction danser votre vie. Donc c'est un docu en forme de leçon de danse. Si le film trouve un bel équilibre entre images d'archives et entretiens filmés, il semble parfois se résumer à un portrait élogieux, exemple de contradiction. Donc c'est un peu un côté prêcha, New Age, agaçant.
Oui, alors moi je dirais que ce n'est pas sans me rappeler le film de Pina Bausch, mais sans le talent de Wim Wenders.
C'est pas un film.
Mais Pina Bausch aussi, c'était pas techniquement un film. Mais c'est-à-dire que par contre, c'est quand même deux destins, deux danseuses, tu m'excuseras. Et effectivement, l'avantage de Wim Wenders, c'est qu'il prenait des séquences et il les filmait, ce qui ne sera pas le cas ici, puisque c'est des films, des images d'archives, et je trouve ça très bien. Et que ça donne un côté un peu rétro. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, notre chère séance Pestel se termine. Nous nous tournons donc désormais vers la semaine prochaine. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, c'est très simple, puisque nous avons eu effectivement les Die Hard 6 et puis le Bad Trip 3, donc nous allons parler des films à suite, tous ces films à suite, et avec une réflexion, est-ce que c'est bien ou c'est mal d'avoir des suites? Alors sous le coup, Hugo s'est évanoui devant le sujet. Je pense qu'il le laisse perplexe. Alors voilà, toutes ces suites, les 1, les 2, les 3, est-ce que c'était bien utile d'en avoir? Voilà. Donc, et il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
Il est d'ailleurs d'accord, mais Very Bad Trip, c'est nul.
D'accord, bon déjà, ça commence.
On parlera de tes films chéris, Twilight et compagnie.
Ah, ça aussi, oui, effectivement, les Harry Potter aussi, et puis évidemment,
ça suit les romans.
Les Halloween. Et oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est justement pour ça. Est-ce que c'est bien
aussi du Seigneur.
Bah, ça aussi, ça suit le roman. Donc.
Après, c'est le découpage qui l'a voulu.
Oui, ben voilà, c'est ça. Eh bien, chers auditeurs,
au revoir.
Et donc, je laisse le dernier mot à notre cher invité.
C'est le seul que j'ai pu dire. Voilà, c'était Gwen qui fait du théâtre. 30 ans de théâtre pour arriver là. Merci à vous. Au revoir. You talking to me?
Life is like a box of chocolates.